Les animaux sont-ils plus armés que les humains pour prédire un tremblement de terre? Visiblement, on ne sait toujours pas. Après avoir parcouru 180 études scientifiques, 700 observations durant 160 tremblements de terre, une équipe du Centre de recherche pour les géosciences estime qu'il est difficile de déterminer avec rigueur que les animaux, par exemple les éléphants, sont dotés d'un sixième sens face aux catastrophes naturelles. Les études attestant d'une capacité des animaux à prédire les séismes sont selon eux trop courtes, trop peu fouillés. Au mieux, les animaux seraient capables de sentir les premiers signes d'un tremblement de terre dès son origine. Des événements subtils comme un dégagement de gaz ou un changement des eaux souterraines, phénomène imperceptible pour l'homme, le serait pour les animaux. Analyser et comprendre le comportement des animaux, c'est le métier des éthologues. C'est par exemple en observant des étourneaux que l'on perçoit qu'ils maîtrisent leur propre langage et que, comme l'homme, ils ont besoin de l'apprendre et aider d'autres oiseaux. Autre illustration avec le cheval qui lui aussi communique. Il vocalise par le hennissement. Entre eux, les chevaux se sentent et se comprennent par le toucher. Et pour mieux se faire comprendre, l'homme a tout intérêt à le regarder. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Notre invitée du jour est Martine Osberger. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous dirigez l'équipe de recherche Pégase au sein du laboratoire d'éthologie de l'université à Rennes 1. Et vous êtes directrice du groupement d'intérêt scientifique Cerveau, Comportement, Société. Et vous répondrez pendant presque une heure aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à vos côtés, Christian Lebar. Bonjour Christian.
Bonjour Renan, bonjour à tous.
Pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne, notre partenaire. Colette, c'est à vous.
Martine Osberger, vous êtes une spécialiste de la vie sociale et de la communication chez les animaux et chez les humains. Mais pourquoi vous êtes-vous intéressée au cheval, un animal qui passe le plus clair de son temps à manger ?
Alors les chevaux, c'est un peu un parallèle avec d'autres espèces. Globalement, ma recherche s'oriente autour de tout ce qui est communication, vie sociale, mais aussi la communication interspécifique. Et dans ce cadre-là, le cheval est un bon modèle, puisqu'en fait, on peut aussi tirer des conclusions sur les modalités d'interaction et de communication en intra et en interspécifique. Donc le cheval nous a intéressés pour différentes raisons. L'une, c'est que c'est un animal bien connu d'un point de vue social, mais qu'il était beaucoup plus dans son milieu naturel qu'en milieu domestique quand on avait commencé. Et il nous paraissait extrêmement important de donner un regard plus complet aussi de l'animal domestique en s'appuyant sur les connaissances qu'on avait du milieu naturel.
Qu'est-ce que vous avez découvert en travaillant vos équipes pendant, j'imagine, des mois, des années sur les chevaux ?
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire que effectivement, cette connaissance qu'on avait du comportement en milieu naturel nous a énormément servi à appréhender aussi les adaptations qu'avait l'animal à son milieu domestique. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi qu'un animal domestique n'est pas si différent que ça de son équivalent sauvage. Et en particulier, c'est un point extrêmement important pour prendre en compte les conditions de vie. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense souvent, on n'a pas domestiqué l'animal en l'adaptant complètement aux conditions qu'on lui offre. Il faudrait plutôt adapter les conditions qu'on lui offre à ses adaptations, qui sont le fruit d'une longue évolution qui est apparue bien avant l'homme, d'ailleurs.
Mais vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous illustrez votre propos.
Il y a plein d'exemples concrets, c'est-à-dire que souvent on sous-estime, par exemple, l'importance, vous l'avez dit vous-même, c'est un animal qui mange tout le temps. En fait, on a un peu perdu ce sens parce que dans le milieu domestique, on a un petit peu tendance à projeter nos approches humaines. Et par exemple, tous les travaux convergent pour montrer que le cheval reste un animal adapté pour un régime alimentaire pauvre, une alimentation permanente. Et c'est quelque chose qu'on a un peu négligé au cours de la gestion de l'animal dans son milieu domestique. Il y a beaucoup d'autres aspects, les aspects de communication qui sont très mal connus. Donc les signaux sont mal connus, mal reconnus, potentiellement mal perçus. Ce qui peut aussi amener à des risques dans l'interaction entre le cheval et l'homme. Donc voilà, cette remise en place de l'animal domestique comme n'étant comme étant finalement malgré tout un animal captif quelque part, c'est-à-dire qu'il a gardé ses adaptations d'animal sauvage. C'est quelque chose qui nous paraît important à montrer et aider aussi à prendre en compte dans la gestion quotidienne.
Christian Lebar.
Alors cette émission, elle est un petit peu particulière pour nous forcément, puisque en principe, se succèdent à ce micro des chercheurs en sciences humaines et sociales, et vous êtes en biologie animale. Est-ce que vous pourriez, alors dans le cadre d'un GIS qui a le grand mérite d'être pluridisciplinaire, donc c'est tout l'intérêt, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous travaillez concrètement, c'est-à-dire comment vous observez les animaux? C'est quoi observer un animal?
Alors, en éthologie, observer un animal ou un humain d'ailleurs, c'est essayer d'objectiver au maximum les comportements qui sont émis par l'animal. On part du principe aussi que le comportement, c'est l'expression de l'état d'un individu à un moment T. C'est-à-dire c'est notre seule fenêtre sur le fonctionnement, y compris interne, d'un individu à un moment T. Pour ça, il faut qu'on essaie d'éviter les écueils qui vont être une interprétation trop rapide et a priori. En tant qu'humain, on a une perception particulière, on peut interpréter des comportements qu'on voit de façon humaine. Ce qui est important, c'est effectivement de laisser l'autre individu, donc en l'occurrence l'autre espèce, nous indiquer ce qu'il ressent à un moment donné en associant ce qui était mis au contexte présent. Donc la façon dont on va observer va être avec des méthodes standardisées, c'est-à-dire qu'on va échantillonner le comportement, on va observer avec des pas de temps donnés, on va observer ou alors en continu.
On quantifie, par exemple ?
On va quantifier, bien sûr, c'est-à-dire qu'on va avoir établi ce qu'on appelle le répertoire comportemental, c'est-à-dire la liste des unités comportementales ou des comportements qu'on a pu observer. Et puis, noter chaque fois que ces comportements apparaissent, noter la succession de comportements, noter en parallèle quelles sont les conditions. Par exemple, si on est dehors, les conditions météorologiques, si on est en milieu domestique, est-ce que c'est le moment où on amène de l'alimentation? Et puis, c'est en mettant en relation tous ces aspects qu'on va pouvoir faire émerger de façon quantifiée des liens entre le comportement et le contexte. On va pouvoir comparer des individus entre eux et on va pouvoir comparer des individus vivant dans des conditions différentes.
Pourquoi on vit avec les chevaux? Pourquoi je vis avec les chevaux? Pourquoi ma femme et moi, nous vivons avec les chevaux? Ça fait 15 ans. Je peux pas le définir exactement. C'est un contact, ce sont des émotions, des joies, des enthousiasmes, et puis aussi des peines. Vous avez vu tout à l'heure, et c'est pas la peine de le cacher, un poulain, parce que là, dans ce pré, il y a deux poulains de 18 mois, dont un qui est le fils de ma jument préférée que j'ai depuis 10 ans. Et ce poulain est né ici. Je partais en Tunisie, tourner un film avec Chabrol, et puis ma jument était pleine, on attendait d'un jour à l'autre qu'elle mette bas. Alors, juste avant de partir, j'avais mes valises et je suis allé la voir, j'avais mon beau costume pour prendre l'avion, et je lui ai dit, écoute, tu te décides pas, ça serait bien de faire maintenant ton poulain, que je le vois, que je le connais.
Par exemple, vous intervenez dans des fermes, dans des clubs équestres, dans des centres d'élevage. Ils sont où les chevaux que vous avez analysés?
Alors oui, effectivement, ils sont dans beaucoup d'endroits. Donc on a une partie de nos recherches qui se fait en milieu naturel ou semi-naturel. Par exemple, on a travaillé au Kazakhstan ou en Islande. Une partie de nos recherches qui se fait en milieu centre équestre plutôt. C'est un partenariat qu'on avait avec la Mutualité Sociale Agricole, par exemple. Et je dois dire qu'on a un accueil assez ouvert, donc on a eu la possibilité de travailler à peu près dans toute la France, dans beaucoup de centres équestres, grâce à l'ouverture d'esprit finalement des responsables d'établissement. On travaille aussi avec les haras nationaux dans une station expérimentale qui est près de Pompadour. Et puis on a aussi des travaux dans des élevages quand on s'adresse à la question du développement et du jeune du poulain à la naissance, par exemple. Et puis on a beaucoup de collaborations à l'étranger, donc on a aussi beaucoup de supports de recherche en externe.
Mais donc ça veut dire que il y a une polarité très large entre des situations où quasiment on observe des animaux sauvages en essayant de se faire le plus discret possible, j'imagine, et des situations où on est avec des animaux qui sont habitués à la présence humaine, qui sont domestiques, etc.
Oui.
Et donc là, c'est très différent.
Alors, c'est très différent, sachant qu'effectivement, on a beaucoup parlé d'observation, mais que l'éthologie, c'est pas que de l'observation, c'est aussi de l'expérimentation, qu'on va beaucoup moins pouvoir réaliser. Alors, on peut faire des expérimentations de terrain. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'intéresse à la communication acoustique, on peut très bien diffuser des sons et voir la réaction de l'animal à ces sons. Donc ça, ça se fait très bien sur le terrain. Par contre, on ne va pas manipuler l'animal. En milieu domestique, on a aussi besoin d'être très discret. Parce qu'en fait, en milieu domestique, c'est presque plus compliqué. Parce que l'animal a déjà une représentation de ce qu'est un humain. Qui peut être positive ou négative, d'ailleurs. Le fait d'être un expérimentateur humain peut effectivement amener de ce fait un biais. Donc tout le jeu va consister à créer une habituation à notre présence qui fait, mais ça c'est vrai que sur le terrain et en milieu domestique, c'est-à-dire que on attend le temps qu'il faut en restant immobile et présent que l'animal revienne à ses activités habituelles en négligeant notre présence. Donc la difficulté est différente, mais quelque part la même quand même dans les deux situations.
D'accord. Alors, parlant des animaux, vous disiez tout à l'heure que vous aviez le souci de comparer aussi les individus entre eux. Et ça m'amène une question assez classique en matière d'éthologie, c'est la question de l'échelle d'observation du comportement. C'est-à-dire, si on parle du cheval, effectivement, on va raisonner probablement à l'échelle de l'individu, le cheval singulier, et par opposition à ça, on sait aussi qu'il y a une tradition en éthologie qui observe plutôt, j'allais dire la fourmilière, pour les étourneaux, c'est, je sais pas comment on dit, mais le grand nombre. Donc voilà, comment vous vous positionnez là-dessus? C'est une bonne question ou c'est...
C'est une très bonne question, et je dirais que tous les niveaux nous intéressent. C'est-à-dire que l'éthologie est par essence une discipline intégrative, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans notre équipe, les travaux vont depuis le fonctionnement du cerveau jusqu'à la comparaison de populations, voire d'espèces. Donc on brasse tous ces niveaux et suivant la question qu'on se pose à un temps donné, on va s'adresser à l'un ou l'autre de ces niveaux. Si par exemple on s'intéresse, pour reprendre l'exemple du cheval, à la notion de tempérament, qui est ce qui a été notre début en fait sur de nos recherches sur les chevaux, on va effectivement mettre l'accent particulier sur caractériser l'individu par rapport aux autres, dans son émotivité, dans ses comportements sociaux, voilà. Si on s'intéresse à des questions beaucoup plus larges qui sont est-ce qu'il y a par exemple des caractéristiques acoustiques de population, on va effectivement s'adresser cette fois-ci à l'échelle de la population et, par exemple, enregistrer les signaux vocaux émis par une espèce dans une population donnée versus une autre population en laissant un peu plus de côté, cette fois-ci, le niveau individuel, mais qui est toujours présent.
Mais pour prolonger cette question, vous et votre équipe, vous êtes des grands spécialistes des étourneaux, ces oiseaux qu'on voit revenir le soir dans les villes et qui se rassemblent par, vous dites, des dortoirs. Quelle est la part là, de l'individu et du collectif, et comment se reconnaissent-ils ou pas? Et vous, d'abord, comment vous les reconnaissez puisque vous les avez étudiés?
Alors, les tourneaux, ça a été pour nous... alors, ça fait très très longtemps que les tourneaux est un sujet d'étude dans l'équipe. C'est un vrai challenge et ça le reste. C'est-à-dire que c'est une espèce qui, à la fois d'un point de vue social, est extrêmement riche. Avec ce que vous évoquez, c'est-à-dire, oui, la nuit, ils se rassemblent en dortoirs qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'individus. Mais en même temps, le matin, ils vont aller visiter ce qu'on appelle une colonie. Alors, une colonie de reproduction au printemps, mais qui est maintenue toute l'année. Et où les individus vont interagir vocalement entre voisins. Et dans ce contexte-là, on peut très bien, il y a plusieurs, là encore, échelles de communication. C'est-à-dire que leur chant nous donne une information sur la colonie à laquelle ils appartiennent, puisqu'il y a ce qu'on appelle un dialecte de colonie, qui est partagé par tous les mâles de la colonie, mais on a aussi des éléments du chant qui caractérisent chacun des individus dans la colonie. Donc ce niveau individuel est toujours très présent. Et puis les tourneaux, dans sa journée, il va aller se retrouver avec d'autres colonies, avec d'autres groupes, les groupes grossissant au fur et à mesure que la journée se passe pour rejoindre justement le dortoir en fin de journée. Dans chacun de ces contextes, du chant est émis avec des caractéristiques particulières. Et les tourneaux est pratiquement la seule espèce pour laquelle on a trouvé un système de dialecte de plusieurs niveaux, qui est ce qu'on observe chez l'homme. Donc c'est une espèce qui est très particulière. Ce système de dialecte, il est retrouvé à peu près dans toutes les populations du monde. Donc là, c'est un très bel exemple de comment, finalement, on a plusieurs échelles à étudier si on veut comprendre le système.
On reviendra tout à l'heure, j'imagine, sur le vocabulaire qu'on emploie, langage, communication, etc. Ces chants, ces dialectes, ce côté voisinage des oiseaux, ça leur sert à quoi ?
Alors là, malheureusement, on reste au stade des hypothèses, hein, parce qu'on a aussi nos limites dans la compréhension, mais on peut tester expérimentalement un certain nombre de choses. Ce qu'on a pu montrer, par exemple, c'est que l'apprentissage... Bon, tous les oiseaux chanteurs apprennent leur chant. Dans le cas de l'étourneau, il y a évidemment apprentissage chez le jeune, mais il y a aussi des apprentissages tardifs, c'est-à-dire qu'ils sont en tant qu'adultes capables d'apprendre aussi. Et l'apprentissage de ce chant ou la convergence de chants entre des individus est un clair reflet de leurs affinités sociales. C'est-à-dire que pour nous, ben, par exemple, dans des groupes mixtes des tourneaux en dehors de la reproduction, on va s'apercevoir que les femelles ont des paires de meilleurs amis, entre guillemets, et que ces paires de meilleurs amis vont partager le même chant. Et puis les mâles forment des petits groupes de mâles et vont aussi partager des structures qui leur sont propres. Donc en fait, plus les animaux se ressemblent vocalement, plus ça veut dire qu'ils sont liés socialement. Donc pour nous, les dialectes seraient le reflet d'entités sociales. C'est là où on fait effectivement le parallèle avec les dialectes humains. C'est-à-dire que c'est des entités sociales et on pense que dans les rencontres multidialectaux que sont les dortoirs, par exemple, ça permet aux animaux de se retrouver en tant qu'entité sociale et d'être plus tolérants là où la densité est extrêmement forte en fait.
Christian.
Alors parmi les analogies un peu casse-gueule, y en a une qui est assez classique, en tout cas du point de vue de la discipline qui est la mienne, c'est la science politique, c'est la question de l'autorité, du pouvoir, des inégalités, etc. Et je ne sais pas si les étourneaux c'est un bon exemple, mais alors est-ce qu'il y a des chefs, est-ce qu'il y a des décideurs, est-ce qu'il y en a qui mènent la danse, et est-ce qu'il y en a qui suivent ?
Alors, ce qui caractérise toutes les espèces sociales, c'est d'avoir une organisation en particulier hiérarchique. Et cette organisation hiérarchique, ce que montrent les études, c'est qu'elle n'est pas tant faite pour qu'il y ait des chefs et des sous-chefs, mais pour maintenir la paix dans les groupes sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, à partir... ce dont on s'aperçoit chez toutes les espèces sociales, c'est que quand les groupes deviennent instables, si par exemple c'est le cas chez les animaux domestiques où on va modifier la composition du groupe, on va avoir une augmentation très claire d'agressivité. Les groupes stables, tels qu'on les trouve en milieu naturel, sont par essence extrêmement pacifiques. Chez, l'essentiel des espèces sociales, évidemment, peut-être pas toutes, mais une grande partie, si on prend les tourneaux et le cheval, par exemple, qui sont les deux espèces dont on discute aujourd'hui, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que les groupes stables, on ne voit quasiment aucune agressivité. On peut passer des heures, des dizaines, des centaines d'heures à observer un groupe de chevaux en milieu naturel et ne jamais voir qui est le chef. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'ils se connaissent les uns les autres, chacun connaît le statut de l'autre, sait si ça vaut la peine ou pas de lutter pour obtenir quelque chose. Et les signaux subtils, mais extrêmement subtils, de menaces à distance, etc., voire un regard, suffit pour que chacun reprenne sa place.
Comme dans les startups, en fait.
Peut-être, je suis moins familière avec les startups.
Non, mais il y a un chef, mais on ne le voit pas forcément. Mais voilà, il y a de la régulation.
Donc en fait, c'est vrai que j'aime bien rappeler que cette organisation, elle est faite pour préserver la vie sociale, pour éviter les dépenses d'énergie inutiles, et que ce n'est pas justement pour se taper dessus, en fait.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des analogies qui sont intéressantes entre société humaine et société animale ? Est-ce que vous considérez que l'éthologie a des choses à nous dire sur les comportements humains, ou bien simplement...
Oui, alors déjà, en tant que biologiste, pour le coup, l'humain est juste un autre mammifère. Donc, si on se positionne comme ça, c'est logique de faire des parallèles. Maintenant, si on reste dans cette dichotomie, on peut quand même se rappeler que tous nos comportements sont le reflet d'états internes, que nos comportements, comme chez tous les autres mammifères, sont régis aussi par des phénomènes aussi physiologiques. C'est-à-dire que des concepts comme l'attachement sont des concepts issus de l'éthologie et sont basés sur le fait qu'effectivement, il y a des substrats physiologiques communs aussi qui font émerger ces comportements à un moment donné de la vie de l'individu. Donc que nous ayons des racines phylogénétiques communes et donc par voie de conséquence des phénomènes communs est une évidence. Au-delà de ça, ce qu'on observe aussi dans l'évolution, c'est des phénomènes de convergence fonctionnelle. C'est-à-dire parce qu'une espèce a besoin de répondre à une contrainte donnée, par exemple sociale, elle va répondre comportementalement d'une certaine façon, avec une adaptation comportementale d'une certaine façon. C'est le cas aussi chez les humains. C'est-à-dire qu'on est aussi le reflet de notre évolution. Si je prends l'exemple de l'apprentissage vocal, le plus proche voisin de l'homme en termes de fonctionnement, c'est pas le primate qui est pourtant notre plus proche voisin phylogénétique. Ça va être les meilleurs parallèles vont être chez l'oiseau chanteur, chez les mammifères marins, voire chez des chauves-souris qui font tous preuve de plasticité et d'apprentissage vocal, en particulier chez le jeune. Et ça, on pense que c'est le résultat de convergence évolutive. C'est-à-dire que parce que dans tous ces cas-là, on avait une certaine forme de socialité, par exemple avec des rencontres entre groupes, etc., où on a besoin de marquer son identité sociale. Ben, de la même façon que l'humain l'a fait, les animaux de différentes espèces et de différents niveaux phylogénétiques vont l'avoir fait aussi.
J'aimerais bien que vous précisiez un peu cette notion d'apprentissage. Vous parliez des oiseaux, en particulier chez les étourneaux.
Alors, l'apprentissage du chant, justement, pour ces raisons-là, est un des plus grands modèles de développement du langage chez l'homme. Depuis des décennies, le premier qui a parlé de ça, entre autres, c'est Peter Marler aux États-Unis dans les années 70. Donc tous les oiseaux chanteurs ont besoin d'apprendre leur chant. Et la plupart d'entre eux ont besoin d'un contact social avec un adulte pour l'apprendre. Chez les étourneaux, là encore, c'est une espèce qui est tellement riche vocalement que ses modalités d'apprentissage le sont aussi. Chez le jeune en particulier, la nécessité absolue d'avoir un modèle vivant pour apprendre quelque chose.
C'est-à-dire un tuteur, un parent, un quoi ?
Alors, un autre individu. C'est-à-dire que ce qu'on trouve, c'est qu'il va apprendre de celui avec qui il crée un lien. S'ils ont un ratio adulte-jeune équilibré, ça va être, ils vont apprendre assez bien de l'adulte, et puis à côté de ce qu'ils auront appris de l'adulte, ils vont innover. C'est-à-dire qu'ils vont rajouter des notes à eux, et donc créer leur propre individualité. Si par contre on est dans un ratio adulte-jeune déséquilibré, par exemple 2 adultes pour 7 jeunes, les jeunes vont former une sorte de groupe de jeunes, qui va développer son propre langage et apprendre finalement assez peu de l'adulte. C'est-à-dire qu'il est extrêmement dépendant du lien social qu'il crée pour modeler sa communication. Et donc on a des expériences, par exemple, où on avait diffusé des chants d'adultes par haut-parleur et créé artificiellement des groupes de jeunes, soit 2 jeunes, soit 1 seul, par exemple. Mmh. Quand il était tout seul à entendre ce chant, il copiait assez bien. S'ils sont 2, ils copient rien du tout parce que leur attention est portée sur leur partenaire vivant. Et donc, on a des phénomènes de, si on a plusieurs paires, chaque paire a sa propre forme de chant.
Mais alors, par exemple, ces paires ou ces groupes de jeunes, comme vous dites joliment, comment après ils peuvent correspondre, communiquer avec d'autres ?
Ils communiquent très mal. C'est-à-dire que si on replace ces jeunes dans une volière avec des étourneaux, je veux dire, normaux, ils vont être laissés de côté. Enfin, c'est-à-dire que cette ségrégation sociale va rester. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu montrer aussi que cette ségrégation sociale se reflète au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas des capacités d'audition normales. L'aire auditive primaire, qui est l'équivalent de notre cortex primaire, ne se développe pas normalement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la spécialisation pour les sons de l'espèce. Donc ça va très très loin, c'est-à-dire que c'est on peut juste avec une modification de l'expérience sociale modifier le système sensoriel.
Et ça, c'est valable pour toutes les espèces ?
Alors, nous, on l'a montré chez les tourneaux. On pense que c'est un facteur d'explication de ce qui se passe sur certains problèmes humains, par exemple, où on constate que des personnes avec des retraits sociaux peuvent avoir aussi des problèmes d'audition. Et on n'explique pas toujours si c'est l'un ou l'autre qui est responsable.
Vous parliez des champs. Est-ce qu'il y a une part chez les animaux, chez les oiseaux, les chevaux et autres, une part de création, que ce soit dans les cris, les postures, ou est-ce que c'est de la répétition, de l'imitation ?
Alors, chez les oiseaux chanteurs sont le plus bel exemple d'imitation, puisque effectivement, ils sont capables de reproduire de façon relativement identique ce qu'ils apprennent. Après, suivant les espèces, ce degré de conformité varie. Les tourneaux est un grand innovateur. Les tourneaux est un grand créateur, c'est-à-dire que il y a une partie de son chant qui va être conforme à ses voisins, à sa population locale. Mais il y a toute une partie qui va être caractéristique de l'individu, non de par son innovation, c'est-à-dire qu'on voit des notes apparaître, on ne sait pas forcément d'où elles viennent, voire il intègre des imitations de sons de son environnement qu'il va moduler à sa façon. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, si c'est un étourneau urbain, il peut inclure dans une partie de son chant du marteau-piqueur, des portes qui claquent, un chien qui aboie. Mais quand on l'entend, on entend en même temps que c'est pas un marteau-piqueur et pas un chien qui aboie parce que c'est mélangé avec d'autres notes. Et chaque étourneau a son propre répertoire de sons particuliers qui sont ces mixtures entre de l'innovation et de l'imitation.
C'est valable aussi chez les chevaux, ces comportements.
Beaucoup moins. Les chevaux, comme les autres, en tout cas sur le plan vocal, les chevaux, comme les autres mammifères terrestres, sont finalement plutôt rigides dans leur mode de communication, encore que on n'a pas suffisamment exploré pour l'affirmer complètement. Alors évidemment, toutes les espèces ont ceci dit, et c'est pour ça aussi qu'on a des traditions qui s'établissent, c'est-à-dire que toutes les espèces ont un potentiel d'innovation sur un domaine ou un autre. C'est-à-dire que dans un groupe de chevaux, certains vont être plus explorateurs que d'autres et vont, si je prends un animal domestique, certains vont apprendre à ouvrir une porte là où d'autres l'auront pas fait. Donc cette notion de variation individuelle est aussi cruciale dans cette idée d'innovation et de créativité. Et voilà, on connaît bien l'exemple des macaques qui lavent leurs patates. C'est venu d'un ou deux individus qui ont commencé à le faire.
On va faire une pause musicale. On va écouter Pain Noir qui nous interprète Stern.
Midi, un midi, assis là, dans un cercle à peine brisé, par quelques mots fuyants, par le feu écrasant d'un rayon de soleil qui dessous les persiennes vient te frapper dedans. Debout à minuit, à se parler sans cesse, le cœur à peine vidé, le sourire innocent et l'air un peu gêné de tous ceux qui reprennent le cours un peu faussé d'une vie en suspens. Et soudain, c'est un bruit, c'est un claquement sec, c'est un fil rompu dans un instant. C'est une sterne, un oiseau qui n'est pas de nos contrées, qui est venu s'écraser à ta vitre ce matin, nous rappelant que quelqu'un a bientôt nous quitter. Nous nous sommes serrés et j'ai effleuré ta main. Encore au matin, le temps plein de promesses. les souris aimants, les rancœurs oubliées, les souvenirs qu'on délaisse pour trouver à nouveau ce léger qui nous manque. Quand soudain c'est un cri, c'est un battement d'aile, c'est le bruit d'une vie s'enfuyant. C'est une sterne, un oiseau qui dépasse de nos contrées, qui est venu s'écraser à ta vitre ce matin, nous rappelant que quelqu'un allait bientôt nous quitter. Nous nous sommes resserrés et j'ai effleuré ta main. Quand une sterne, un oiseau qui dépasse de nos contrées est venu s'écraser à ta vitre ce matin, nous rappelons que quelqu'un allait bientôt nous quitter. Nous nous sommes regardés et j'ai embrassé ta main. J'ai embrassé ta main.
Bain noir, Stern, à l'instant sur Canal B. Vous êtes toujours à l'écoute de Chercheurs en ville. On s'intéresse aujourd'hui à l'étude des comportements animaliers. En première partie d'émission, nous avons pris l'exemple des chevaux ou encore des étourneaux observés par les éthologues. De ce travail, il en ressort notamment que l'étourneau, dans son champ, est un grand créateur, comme nous pourrions le dire chez les humains. La question du vocabulaire sera d'ailleurs évoquée dans cette deuxième partie d'émission. Nombreux sont en effet les termes que l'homme utilise pour lui et les animaux, peut-être pas toujours à bon escient d'ailleurs. Martine Osberger, directrice de recherche au CNRS, est notre invitée. Elle répond aux questions de Colette David et Christian Lebar.
Donc Martine Osberger, vous nous avez parlé pendant la première partie de l'émission du comportement animal en des termes tout à fait passionnants et en suggérant un certain nombre d'analogies avec les comportements sociaux, les comportements humains. On a parlé communication, on a parlé tempérament individuel, etc. Alors est-ce qu'on pourrait peut-être déplacer un peu le débat et le contextualiser aussi en référence à tout ce qui se dit aujourd'hui sur les animaux? Il y a une préoccupation sociétale assez inédite, je crois, à l'échelle du grand public, en particulier autour de la souffrance animale, avec, là pour le coup, des analogies qui sont faites très brutalement sur les animaux souffriraient comme nous. Donc ce qui interroge forcément la question de la frontière entre l'humain et l'animal. Alors comment est-ce que, en tant qu'éthologue, vous situez dans ce débat? Enfin, est-ce que vous le reprenez à votre compte ou est-ce qu'il vous agace?
En tant qu'éthologiste,
éthologue alors, faut pas dire.
On a l'habitude de dire éthologiste, mais c'est au choix. Les deux sont vrais. On a une responsabilité dans ce débat, bien évidemment, pour deux raisons. La première, c'est que on ne peut qu'adhérer au fait que l'animal est un être sensible. Hein, c'est ce qui est sorti de la loi récemment, et évidemment,
en 2015.
C'est ce que nous disons depuis très longtemps et prouvons. Hein, donc, on ne peut qu'évidemment connaître ça et y adhérer. D'un autre côté, on doit aussi mettre des mises en garde sur des projections trop rapides de nos perceptions sur l'animal. Pour prendre un exemple concret, il est fréquent de voir des animaux qui sont des chevaux, par exemple, qui vivent dehors en prairie, être considérés par des gens qui se soucient du bien-être animal comme des animaux qui sont potentiellement en souffrance parce qu'ils sont dehors, pas abrités,
maltraités.
Donc le biais, c'est... Et donc ces animaux-là vont potentiellement être mis en boxe. dans des conditions qu'on va considérer, nous, humains, comme étant des bonnes conditions. Pourquoi ? Parce que c'est propre, c'est aéré, c'est clair, il y a de la nourriture en abondance, etc. C'est pas forcément ce dont l'animal a besoin. Et en fait, vous savez, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des fois où c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on retire l'animal d'un milieu approprié parce que nous, humains, on s'y sentirait pas bien, pour le mettre dans un environnement que nous, humains, considérerions comme plus confortable, mais qui n'est pas le cas pour l'animal. Donc, on a une très grosse responsabilité et peut-être qu'on n'est pas assez impliqué. Alors, ce n'est pas de notre fait, hein, mais on n'est finalement pas autant sollicité, je pense, qu'on devrait l'être, parce que c'est un débat qui est avant tout un débat de mesure objective de l'expression de l'état interne et donc du comportement. C'est-à-dire qu'à travers ses postures et ses comportements, l'animal exprime son état interne. Et si on n'est pas formé à cette observation, on peut complètement se tromper.
Alors, très bien, mais alors, est-ce qu'un des moteurs de ces analogies, de ces projections, vous en avez vraiment donné un très très bon exemple, de ces projections un peu hâtives, un peu faciles, pleine de bonnes intentions, mais qui méconnaît en fait la spécificité du cheval en l'espèce. Est-ce qu'un des moteurs de ça, c'est pas le langage, en tant qu'il suggère des analogies, parce qu'on va utiliser les mêmes mots pour parler des uns et des autres. Et par exemple, qu'est-ce que vous pensez de l'usage d'un terme comme bien-être animal ou souffrance animale ? Enfin, bien-être, c'est intéressant parce que bien-être, ça fait quand même très, c'est pas le cas de souffrance, hein, mais le terme bien-être renvoie quand même à la société bourgeoise.
Ouais, alors c'est le problème du terme, c'est qu'il est un peu ambigu, mais aussi pour l'homme, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire, il est ambigu pour deux choses. C'est-à-dire que on peut confondre le bien-être immédiat, qui est là tout de suite, je me sens bien, détendu, et le bien-être chronique, qui est ce qu'on étudie nous plus hein, chez l'animal, qui est la résultante de toutes ces expériences quotidiennes, et qui fait qu'à un moment donné, s'il va pas bien, mais comme un humain, s'il va pas bien, il va être déprimé, il va exprimer des comportements pathologiques ou autres. Et ce mélange entre ces deux notions est déjà une ambiguïté. Mais c'est vrai pour l'homme aussi. Cette ambiguïté, elle vient aussi du fait que la notion de bien-être est venue du terme anglais, qu'on a traduit, mais où ils ont, eux, deux termes, qui est « well-being », plutôt pour le bien-être immédiat, et le « welfare », qui est né d'une préoccupation politique il y a déjà quand même des décennies, et qui n'est pas tout à fait la même chose non plus que notre bien-être à nous. Donc effectivement, quand on parle de ce débat-là, c'est assez rare que ce soit resitué dans ce contexte qui est très différent de l'immédiateté et de l'aspect chronique. On peut être en état de bien-être parce qu'on mange un bon gâteau à un moment donné, mais si on mange des bons gâteaux tous les jours un peu trop, on va finir par être en état de mal-être. Vous voyez la différence entre l'aigu et le chronique. Après qu'on se soucie du bien-être de l'animal, et là encore, pour moi, ce qui est important, c'est plutôt l'aspect chronique, c'est extrêmement important. Donc si ça permet d'y réfléchir, tant mieux. Là encore, en étant très vigilant que le bien-être de l'un n'est pas la même chose que le bien-être de l'autre. Pour la souffrance, oui, mais c'est pareil. La souffrance, c'est un des concepts les plus difficiles à appréhender, que ce soit chez l'homme ou l'animal, puisqu'en fait, c'est subjectif. Le bien-être comme la souffrance est subjectif, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que l'individu qui peut dire, entre guillemets, s'il va bien ou va mal. Et c'est pas juste en regardant les conditions de vie, les conditions de gestion, qu'on peut tirer une conclusion.
Mais est-ce que la sémiologie de la souffrance n'est pas plus facile que celle du bien-être ? C'est-à-dire un animal en souffrance, j'aurais tendance à penser que ça se voit plus. Ça se voit, non ?
Ça dépend de ce qu'on appelle souffrance, c'est-à-dire qu'on peut prendre souffrance au terme physiologique du terme, on peut prendre souffrance au terme psychologique du terme. Le mal-être, pour prendre le bien-être dans le mauvais sens, c'est une souffrance psychologique, entre autres. La souffrance psychologique, le corps et l'esprit, vous savez bien, ne sont pas dissociables, donc la souffrance psychologique et la souffrance physiologique vont ensemble. Donc c'est très très difficile de scinder les deux. Et la frontière bien-être, mal-être et souffrance est floue, tout comme la notion de souffrance ou de douleur, qui est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc toute la difficulté, mais pour moi il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal de ce point de vue-là, si ce n'est que l'homme, quand il est verbal, peut exprimer ce qu'il ressent. La difficulté pour les humains non-verbaux, que sont les bébés ou des personnes atteintes de certaines pathologies ou les animaux, c'est que finalement, c'est ceux qui sont autour d'eux qui vont appréhender pour eux leur niveau de subjectif de souffrance ou de mal-être. Et ça, c'est une vraie difficulté.
Aujourd'hui, la brigade cynophile vient faire un bilan personnalisé chez Véronique. Son chien est agressif et a même mordu le facteur.
Quand vous parlez des humains autour d'eux, vous êtes une scientifique, mais on voit de plus en plus des propositions qui s'adressent à des propriétaires d'animaux, des éleveurs, etc., qui émanent de, je cite, de magnétiseurs, de psychologues pour animaux, de télépathes pour comment bien se comporter, comment mieux connaître votre animal, comment bien se comporter avec lui. Vous, en tant que scientifique, qu'est-ce que vous pensez de ça ?
C'est assez difficile. En fait, ce qui nous préoccupe un peu, c'est que depuis un certain temps, le terme d'éthologie est en train de souffrir de son succès, c'est-à-dire qu'il est récupéré. Effectivement, l'éthologie, c'est une branche de la zoologie. Étymologiquement, c'est l'étude des mœurs, hein. Ça vient de éthos, c'est une science. Et parce que c'est une science qui est finalement assez perceptible par un ensemble de gens et qui paraît facile, beaucoup de gens ont récupéré l'étiquette pour mieux vendre ce qu'ils font. Alors, dans les gens qui ont récupéré l'étiquette et qui ne sont pas des scientifiques, il y a des gens qui sont extrêmement efficaces, des gens qui ne le sont pas, des gens qui mettent les animaux en souffrance. Ça nous préoccupe vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un vrai problème pour moi que sous ce terme qui est un terme scientifique, on met une diversité d'approches qui n'est absolument pas ou qui se dit basée sur des concepts scientifiques, mais elle n'est pas forcément. Donc il faudrait trouver d'autres termes. Donc certains le font. Après, dans ceux qui le font, par exemple les dits comportementalistes, etc., là, on sait qu'on est sur des gens qui pratiquent, mais de la même façon qu'on a des bons et des moins bons moniteurs d'équitation, on va avoir des bons ou moins bons comportementalistes. Ce qu'il faut surtout, c'est être vigilant par rapport à cette nouvelle mode d'étiqueter comme éthologie des pratiques qui ne sont pas des pratiques scientifiques.
Et par rapport au mouvement de défense de la cause animale, quel type de relation vous pouvez avoir ? Ils reprennent vos travaux ?
C'est très variable suivant les associations. On a assez peu de contacts globalement. On n'a pas été sollicité globalement. On n'a pas non plus de notre côté forcément été actif non plus à leur décharge. Donc je pense que c'est un lien qui est à établir davantage. Peut-être pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, que ce serait extrêmement important parce que beaucoup de décisions sont prises ou de positions sont prises en matière de défense des animaux qui mériteraient d'être accompagnées scientifiquement. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses que ces associations disent qui sont très justes, mais du coup, quand c'est une prise de position individuelle ou de groupe, ben finalement, c'est croyance contre croyance. Et puis d'autres que je trouve moins justes, et pour lequel il pourrait y avoir débat avec eux. Donc je
donner des exemples de passerelles possibles et des fossés, des fractures.
Bah, l'exemple du fossé que je donnais tout à l'heure est un exemple de fracture, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des associations qui prennent des positions très fermes sur des conditions de vie d'animaux, parce que c'est leur croyance. Si l'exemple que je donnais tout à l'heure est une caricature, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'était accompagné, on pourrait expliquer que l'animal, il donne des signaux de par ses postures et ses comportements qui sont des signaux où finalement cette condition-là n'était pas forcément négative. Inversement, je pense que s'ils ont des positions, et j'ai pas envie trop de rentrer dans le débat aujourd'hui parce que justement on n'a pas eu cette discussion, il y a des positions par rapport à des animaux en élevage intensif, par exemple, ou qui sont pas forcément fausses, mais qui pourrait être soutenu davantage par l'accompagnement scientifique de façon à accompagner ça de données objectives.
Alors certains défenseurs de la cause animale vont très très loin, hein, y compris jusqu'à ce que certains philosophes ont appelé une sorte d'anti-humanisme, hein, c'est-à-dire en disant il y a pas de raison de mettre sur des plans différents la souffrance animale et la souffrance humaine, etc. Donc avec une dilution de la catégorie de l'être humain en tant que espèce singulière, est-ce que c'est des choses qui vous parlent ou est-ce que vraiment là vous considérez qu'on est on est sur le débat.
C'est une question complexe. C'est une question complexe, parce que d'abord, il n'y a pas un animal versus un humain. Il y a une diversité, enfin, je veux dire, on a tendance à opposer ces deux pôles, alors qu'en fait, il y a une diversité d'espèces animales gigantesques. Est-ce qu'on va se positionner de la même façon sur une éponge qui est un animal, sur un poisson, sur un singe, je ne sais pas. Quels sont les critères objectifs qu'on pourrait développer, je ne sais pas. Mais c'est une vraie question pour moi. Où commence et s'arrête la communauté de processus, c'est-à-dire que très typiquement, on partage avec les autres mammifères une grande quantité de processus. On en partage moins avec certains invertébrés. C'est pour moi vraiment difficile. Après, qu'on se pose la question de notre hégémonie humaine, c'est aussi bien, je trouve, parce qu'on est en train de passer d'un extrême un peu à l'autre. C'est-à-dire qu'on a quand même été très dominé par cette culture de l'homme est unique et particulier, ce qui d'ailleurs nous a nuit en tant qu'espèce, puisqu'il y a des processus qu'on a niés et qu'on n'a pas résolus à cause de ça, à l'autre extrême où on est tous dans une sorte de même communauté. Je pense qu'il y a un point d'équilibre entre les deux qui est trouvable.
Mais c'est compliqué parce qu'à la fois, bon, il y a effectivement la tradition humaniste, chrétienne, c'est vrai, qui met l'homme au centre du monde et qui transforme les animaux en objets, hein, complètement. Mais en même temps, cette tradition a toujours fait de la nature, j'allais dire, un gisement de légitimité. C'est-à-dire, lorsque sous Louis XIV, on veut justifier la monarchie, on dit la monarchie absolue, on dit il n'y a qu'un soleil dans la nature, et on dit regardez les animaux, il y a toujours un chef. Encore au début du XXe siècle, quand André Gide, un des premiers, tente de défendre l'homosexualité, il dit il y a de l'homosexualité chez les animaux. Et on pourrait donner plein d'exemples. Enfin, la critique de la démocratie, ça a toujours été il n'y a pas de démocratie chez les animaux. Donc le comportement animal a toujours servi aussi de... On a toujours puisé dans l'observation du comportement animal pour dire c'est naturel, c'est... pour utiliser une formule affreuse, contre nature, donc ça n'a pas de sens dans l'humain. Donc c'est-à-dire, les termes humains sont très très compliqués.
Alors c'est intéressant dans ce que vous dites, parce qu'en fait, vous voyez bien aussi que c'est seulement quand ça nous arrange.
Bah oui, bien sûr.
Donc là, l'idée, c'est d'aller vers quelque chose où ça ne nous arrange pas forcément. C'est-à-dire qu'on soit un peu plus objectif et dire on regarde tous les processus et qu'on a en commun et on se pose ces questions-là. Il y a une réalité qui est que nous partageons énormément de processus avec plein d'espèces animales, et en particulier les mammifères, mais pas seulement. C'est une réalité biologique. Après, cibler un point particulier, parce qu'à un moment donné, on veut justifier ce qu'on fait, c'est une autre démarche. Mais c'est vrai aussi que dans les cultures anciennes, on s'appuyait beaucoup sur le comportement des animaux pour former les futurs dirigeants et autres. On sait que les fables de La Fontaine, c'est l'origine étendard, c'est-à-dire que c'était un conteur indien qui les a développés pour former les futurs princes, en s'appuyant sur des choses qui sont assez intéressantes. Typiquement, quand je parle de projection, une des images que je montre pour faire comprendre aux gens les ambiguïtés entre ce que nous percevons et ce que l'autre perçoit, c'est le renard et la cigogne. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous regardez l'image du renard et la cigogne, c'est très illustratif du fait qu'on croit que ça va faire plaisir à l'autre parce que ça nous fait plaisir. Vous voyez ? Donc on peut se servir de ça, et anciennement on le faisait, mais pas de la même façon. Pas de la même façon.
Oui, les historiens ont bien montré comment nos sociétés avaient une capacité incroyable à fabriquer des figures animales, à doter les espèces animales de psychologie, avec des animaux sympathiques, des animaux antipathiques, etc. Bon, dans la méconnaissance totale de la réalité du comportement animal.
C'est là où, effectivement, nous, dans notre domaine, on essaie de rétablir ça, c'est-à-dire qu'on ne prenne pas que ce qui nous arrange à un temps donné.
Et je pense en particulier à la hiérarchie entre les animaux supposés intelligents et les animaux supposés moins intelligents, qui, si j'ai bien compris, est en train de... enfin, évolue très rapidement, parce qu'il y a des animaux quand même, entre guillemets, mauvaise réputation, et dont on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus subtils qu'on ne le croyait.
Alors, en fait, ça fait très très longtemps qu'on sait que l'évolution n'est pas linéaire, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de ramifications, et on trouve des capacités cognitives, et maintenant c'est admis puisqu'ils ont un statut particulier chez, par exemple, les céphalopodes. Les capacités cognitives des sèches, poulpes et autres sont extrêmement développées.
Qui l'eût cru ?
Voilà. Et donc, oui, on sait ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas du moins évolué au plus évolué. Et puis, la notion aussi d'adaptation qui fait que bah, y a des choses que nous, humains, on ne sait pas faire. On fera moins bien que les autres. Enfin, que d'autres, en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas dans les mêmes milieux. On n'a pas les colocations qui nous permettent de nous diriger avec des ondes comme ont les dauphins ou les chauves-souris. Donc, cette notion de certains ont certaines choses et d'autres en ont d'autres, c'est extrêmement important. Qu'on soit une espèce singulière, je pense qu'on est quand même une espèce singulière. Pourquoi ? Parce que par rapport à tout ce qu'on sait du langage, on a un langage qui est quand même plus sophistiqué, on a une communication plus sophistiquée que ce qui a été démontré pour l'instant chez les autres espèces. On a aussi un potentiel qui est s'observer, observer, qui est justement le cœur de notre métier, qui est moins évident chez d'autres espèces. Mais on ne l'exploite pas forcément comme on pourrait.
Trenez beau corps sur un bras chez Père, n'était dans son logbé un mâche fro. Remène un re, par l'odeur à lécher, lui teint à peu près ce gagelant. Et jour bon, s'humeur du beau corps, que vous êtes ligeau, que vous me blessant l'aubaine, sans pirement, si votre majra se rapporte à votre mâche plus, vous êtes le nixfé des teaux de ces lois bêmes.
Dans ce débat où se situe la frontière humanité-animalité, un de vos collègue, confrère Alban Lemasson, qui a travaillé sur les singes, dans une de ses communications, il dit « Qu'on se rassure, en l'état de nos connaissances, l'homme garde des facultés qui lui sont propres. Le fait de communiquer sur l'avenir ou le passé, sur un lieu éloigné, le fait de pouvoir, grâce à la syntaxe, créer un nombre infini de messages. » Donc, qu'on se rassure. Et il rajoute avec humour, du moins pour le moment. Qu'est-ce que vous pensez de...
Alors, je rebondirai sur le du moins pour le moment. Tout simplement parce que, effectivement, même des notions de se projeter dans le passé ou le futur, il y a des espèces qui le font dans une certaine mesure. Pas autant que nous, mais quand même. La syntaxe, il a lui-même démontré que malgré tout on a des éléments de syntaxe dans la communication animale, donc oui, à intenter, on garde ses caractéristiques. Est-ce que en étudiant davantage, est-ce que de nouveaux outils d'investigation, on ira plus loin, peut-être.
Vous travaillez avec des confrères et consoeurs d'autres disciplines, notamment dans le cadre du GIS. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quels sont vos axes de recherche pour les prochaines... D'abord, comment est constitué ce GIS et vos axes de recherche pour les mois et années à venir?
Alors, je dirais que le GIS est né un peu naturellement des caractéristiques de l'éthologie qui est qui est intégrative. Et parce qu'on travaille de façon intégrative, on atteint nos limites aussi. C'est-à-dire que quand on travaille sur le fonctionnement du cerveau, nous, ce qui va nous intéresser, c'est la limite, c'est comment on explique le comportement. Mais quand on va vouloir aller plus loin, on va devoir faire appel à des neurobiologistes. De la même façon, les processus qu'on a vus de développement du jeune, l'influence qu'ont les expériences précoces chez le jeune animal, nous ont interpellés aussi sur des aspects de développement du jeune enfant. Et là aussi, on va atteindre nos limites, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de travailler avec des psychologues, avec des pédopsychiatres, avec des médecins, si on veut aller plus loin dans cette dimension. Donc en fait, ce GIS s'est constitué de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on avait des questions sur un certain nombre d'aspects, où on s'est dit, bah, si on veut vraiment aller plus loin, on a besoin des autres aussi. Ça s'est fait assez naturellement, et puis bah, en fait, en cumulant tous ces contacts qui avaient été pris, alors on a une longue habitude aussi de contact avec les psychologues, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans des disciplines extrêmement proches, donc on avait depuis très longtemps des contacts sous différentes formes avec les psychologues de Rennes 2, bien évidemment. Donc ce noyau a aussi contribué à faire surgir ce groupe qui a grossi récemment, puisqu'on vient de le renouveler avec de nouveaux membres. mais qui est constitué du monde médical, avec des gens de l'hôpital de Rennes 1, mais aussi de l'hôpital de Brest. On a aussi du domaine des sciences humaines avec des philosophes, des linguistes, et évidemment des psychologues de Rennes et de Nantes. On a aussi les sciences de l'information et l'électronique avec le centre d'électronique de Rennes et puis des personnes de France Télécom, etc. de Vannes. Donc en fait, on a un réseau qui est réellement extrêmement interdisciplinaire, assez unique en son genre, parce que c'est assez rare de rassembler des personnes de domaines aussi variés. Des exemples de résultats ou de ces collaborations, c'est plusieurs thèses qui ont été réalisées. Par exemple, entre le droit et nous, sur le statut juridique du responsable de centre équestre. Il y a eu aussi une thèse qui vient de se terminer sur le monde sensoriel du bébé prématuré, en collaboration avec l'hôpital de Brest, l'hôpital de Rennes, etc. Donc on a eu aussi dans le passé des projets sur les interactions homme-robot. Donc voilà ce que ça permet de faire émerger. Ça a permis aussi des développements technologiques, comme par exemple de développer de l'électroencéphalogramme portable pour des animaux, qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc, c'est une source d'innovation et de création, puisqu'on parlait d'innovation et de création tout à l'heure, qui est non négligeable.
Martine Hausberger, merci beaucoup pour cet entretien. L'émission a été réalisée par Ronan Lemouer, avec la collaboration de Perrine Juin et de Nina Pareja. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission de Chercheurs en ville, en juin, sur Canal B.